Littérature Audio a le plaisir de vous présenter Le fiancé d'Elvire, une comédie d'Emmanuel Pinheiro-Chagas, adaptée à la scène française par Henri Faure. Cette comédie a été représentée pour la première fois sur le théâtre de Moulins le 24 mars 1904. Personnage. Le baron Fulgence de la Héronnière. Henri, vicomte des Verrières. Éleuthère Durand. Elvire, fille de Fulgence. L'action a lieu au château de la Héronnière en Bourbonnais. Un salon de province, meubles anciens, piano à gauche. Elvire, au piano, joue en sourdine.
Oui, mon cher Éleuthère, c'est aujourd'hui que j'attends le futur de ma fille Elvire. Et je compte sur toi pour qu'on lui fasse, à son entrée au château de la Héronnière, un chaleureux accueil. Tu rangeras sur son passage nos gens et nos voisins. Ils crieront « Vive Monsieur Henri des Verrières !» et je suis sûr qu'il sera flatté de la réception.
J'ai compris, monsieur le baron. Si nous le faisions passer sous un arc de triomphe.
Le temps manquerait pour cela, mais va cueillir un beau bouquet et tu viendras le lui offrir avec un joli compliment.
Un compliment ? C'est que je ne suis pas bien sûr de savoir le tourner comme il faut. Si vous me disiez, comment je devrais commencer ?
Tu parleras d'abondance et ton amitié pour nous t'inspirera. N'es-tu pas presque de notre famille ? Frère de lait de ma fille, fils de mes braves jardiniers, tu as grandi dans ma maison. Tu aimes bien Elvire, n'est-ce pas ?
Oh oui, de tout mon cœur.
Tu dois désirer qu'elle soit heureuse.
Si je le désire.
Eh bien, fais en sorte que son fiancé trouve, à son arrivée, des visages riants. C'est souvent de la première impression que dépend le bonheur de la vie entière.
Je ferai de mon mieux, monsieur le baron.
Va donc, et que tout soit prêt dans peu de temps, car il peut arriver d'un moment à l'autre.
Je cours rassembler tout le monde et cueillir un magnifique bouquet.
Il sort vivement par le fond. Elvire quitte le piano.
Mon Dieu, mon père, je vous admire.
N'est-ce pas que je fais bien les choses ?
Trop bien, en vérité. Ne croirait-on pas que ce beau fiancé est quelque prince charmant qui daigne quitter les splendeurs de sa cour pour venir au fond du Bourbonnais chercher la sœur de Cendrillon ? Est-ce qu'on illuminera en son honneur ? Tirera-t-on un feu d'artifice ? Et quand il apparaîtra, devrais-je me mettre au piano pour jouer la Marseillaise, comme on fait pour le président de la République ?
Ce langage ironique est déplacé ici.
C'est qu'il est bien agaçant pour une jeune fille d'être ainsi mariée, sans qu'on ait daigné consulter son cœur.
J'ai voulu te faire une agréable surprise.
Agréable ? Quand il s'agit d'un mari imposé et non choisi ?
Henri est le fils de mon vieil ami, le comte des Verrières. Ce mariage, depuis longtemps arrêté entre nous, fera ton bonheur, j'en suis certain. Henri est un cavalier accompli, et dès que tu le verras, tu l'aimeras.
Non, mille fois non ! Je veux bien consentir à le voir, puisque vous le désirez, mais ce sera pour lui dire qu'il se trompe, s'il croit, ce Parisien accompli, qu'on peut se commander une fiancée en province, comme on se commande une pièce de vin du cru. Je saurai bien lui prouver que les filles de la province ont autant que celles de Paris le droit d'exiger qu'on leur fasse un doigt de cour, et qu'elles ne se laissent pas éblouir par l'auréole ridicule d'un viveur parisien.
Henri n'est pas un viveur, il est instruit, travailleur, et pour sa belle conduite à Madagascar et en Chine, on doit sous peu mettre le ruban rouge à sa boutonnière. Je puis t'assurer qu'il y sera bien placé. Toutefois, quoique j'aie, peut-être imprudemment, engagé ma parole à son père, je n'ai pas l'intention de contraindre ta volonté. S'il ne te convient pas de l'épouser, je prierai mon vieil ami de me rendre cette parole et tout sera dit.
À la bonne heure. J'aime à voir qu'on ne me fera pas comparaître de force devant l'écharpe de monsieur le maire.
Et moi, je suis convaincu que, après un moment d'entretien, vous serez les meilleurs amis du monde.
N'y comptez pas. Vous seriez sûrement déçus.
Ah, l'expérience prouvera qui de nous deux a raison.
Éleuthère entre par le fond, un bouquet à la main.
Il arrive, il arrive ! Nous avons aperçu la voiture au détour du chemin. Tous nos gens forment la haie le long de l'avenue. Et tenez, entendez-vous ces acclamations joyeuses?
C'est lui, enfin.
Moi, du moins, je ne figurerai pas dans le cortège.
Elle entre à gauche, Henri sur la porte s'adressant à la cantonade.
Merci, mes amis. Je suis touché de votre accueil.
Fulgence va à lui et l'embrasse.
Mon cher enfant, que je suis heureux de vous voir. Il y a si longtemps que je n'avais eu ce plaisir. La dernière fois que je m'étais trouvé avec vous à Paris, j'avais laissé un jeune adolescent.
Et c'est un homme qui vous revient. Plus qu'un homme, un fils. Car l'amitié des pères est aussi une part de leur héritage, souvent la plus précieuse. Mais quel délicieux pays que le vôtre! C'est un vrai paradis.
Toujours enthousiaste, mon cher Henri. Mais j'oubliais de vous présenter M. Eleuther Durand, le fils de nos excellents jardiniers, le compagnon d'enfance de ma fille, que la mère de ce gros garçon a nourri, car vous le savez, ma pauvre Elvire s'est trouvée orpheline en naissant. Voyez, il voudrait vous souhaiter la bienvenue. Allons, Eleuther, avance et fais ton compliment.
Quand ?
Bien, mon ami, en fait de discours, je suis d'avis que les plus courts sont les meilleurs.
Quand ?
Henri prend le bouquet.
Qu'est-il besoin de parler ? Ce bouquet est plein d'éloquence. Merci, mon ami, je vais l'offrir à mon aimable fiancé.
Tu peux te retirer, ou mieux, attends ici, j'aurai peut-être besoin de toi.
Bien, monsieur le baron.
Il entre à droite.
C'est un type que votre Eleuther. Y en a-t-il beaucoup de cette force à la héronnière ?
Soyez indulgent, mon cher Henri. Le chemin de fer n'a pas encore pénétré jusqu'à la héronnière, et la vue d'un Parisien élégant et distingué...
De grâce, cher beau-père.
Est bien faite pour intimider un pauvre garçon qui n'a pas certes inventé la poudre, et dont l'instruction se borne au peu que lui a appris, tant bien que mal, le vieux magistère du village. Il est surtout d'une timidité inimaginable. C'est au point qu'il n'a pas osé aller visiter l'exposition, malgré ses splendeurs, de peur de se perdre dans Paris. Mais c'est une bonne nature, et nous l'aimons tous pour ses nombreuses et solides qualités.
Je vous le promets, je l'aimerai de même. Mais il me tarde de voir Mademoiselle Elvire et de me convaincre par moi-même que le portrait dont vous avez eu l'amabilité de nous faire présent n'a point exagéré sa beauté, comme tout le bien que m'en a dit mon père n'a point surfait les dons de son esprit et de son cœur.
Elle est là dans sa chambre. Elvire !
Elvire paraît.
Je te présente mon jeune ami, Henri des Verrières. Tu sais pourquoi il a quitté Paris ?
Oh, la belle personne ! Et combien gracieuse malgré une affectation de réserve, bien naturelle en cette circonstance.
Il lui présente le bouquet qu'il avait déposé sur un meuble.
Daignez me faire la grâce, mademoiselle, d'accepter ces fleurs. Je dirais moins belle que vous, si ce compliment, bien qu'il soit une vérité, n'était pas si banal.
Est-ce à présent qu'on a besoin de moi ?
Elvire, prenant le bouquet des mains de Henri et le donnant à Eleuther.
Oui, mon ami, rends-moi le service d'emporter ce bouquet. Tu sais bien que les fleurs me donnent la migraine.
Ah, je sais.
Prends le bouquet et mets-le à tremper. Tu le rapporteras un peu plus tard. Va.
Oui, monsieur le baron.
Il sort par le fond.
Je regrette vivement de n'avoir pu changer ces fleurs en pommes d'or, puisque la pomme d'or revient de droit à la plus belle.
Des madrigaux ? En province, c'est temps perdu. Le madrigal est une fleur des salons parisiens. La province et le plein air ne lui conviennent point.
Mais si ces fleurs sont des fleurs de province, écloses sous les pas de ma charmante fiancée.
Fiancée ? C'est selon comme on l'entend.
C'est selon ?
Je vous laisse un instant, quelques ordres à donner. Puis je viendrai vous prendre pour faire un tour de parc en famille.
Il se dirige vers la droite.
Que va-t-il résulter de leur entretien ? À la grâce de Dieu.
Il sort.
Avouez, mademoiselle, que votre « c'est selon » est assez désobligeant.
Comment cela ?
N'est-ce pas mettre en doute notre union tendrement caressée par nos familles ? Et sans laquelle, je le sens maintenant, il ne saurait exister pour moi de bonheur dans la vie.
Comme cela ? À première vue ? Et c'est sans rire que vous parlez ainsi ?
Vous ne sauriez vous y méprendre. Oui, mon admiration est sincère. Tout ce que j'avais appris du charme de votre personne est dépassé. En vous voyant, j'ai reçu là un choc.
Foudroyant, comme l'apoplexie. Je ne me croyais pas si funeste à mon prochain.
C'est fort mal à vous de me répondre en raillant, quand moi je parle avec mon cœur.
Oh, quoi ! À peine entré dans la maison, vous avez été pris, ainsi, d'un accès de fièvre amoureuse ? Que je vous plains, pauvre monsieur. Il vous faut de la quinine, beaucoup de quinine. C'est un remède excellent.
Que signifie ce langage? Est-ce une rupture qu'elle cherche?
Elvire, lui montrant un siège et s'asseyant aussi.
Parlons sérieusement, voulez-vous, monsieur Desverrières? Vous avez joué, de façon fort aimable, je le reconnais, votre rôle de prétendu amoureux. Vous avez la délicatesse de voiler sous l'apparence d'un amour spontané le prosaïsme d'un mariage de convenance. Je vous sais gré de votre courtoisie, mais si vous le permettez, nous envisagerons la situation sous son véritable jour. Nous devrions, paraît-il, nous marier sans nous aimer, je dis plus, sans nous connaître. Or, je dois en faire l'aveu, vous avez devant vous une personne extrêmement romanesque.
Ah, vraiment?
C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. J'aime les nuits étoilées, le lac dont la brise ride la surface, les chants suaves du rossignol, les mystérieuses mélodies des sérénades et les vers inspirés des poètes.
De grâce, veuillez continuer, c'est fort intéressant.
Tel que je le comprends, l'amour doit s'entourer d'ombre et de mystère. C'est l'imprévu qui en fait le principal charme. Je n'accepterai donc jamais un fiancé officiel, annoncé à l'avance par le télégraphe et conduit par la main par l'auteur de mes jours. Celui que j'entends choisir moi-même devra chanter sous mes fenêtres la cantilène d'Alma Viva, grimper par une échelle de soie et entrer par le balcon, la guitare en bandoulière, comme dans le barbier de Séville. C'est mon dernier mot.
Elle veut rompre, c'est certain. Eh bien, jouons-lui la même ritournelle. Mademoiselle, je regrette bien sincèrement de n'avoir pas été prévenue. Je n'ai apporté ni la guitare, ni l'échelle de corde d'Alma Viva. Je n'en suis pas moins capable de tout entreprendre pour me faire ouvrir la porte de votre cœur.
Impossible d'y entrer, monsieur. Il y a déjà locataire dans la maison.
Locataire? Au pluriel?
Au singulier, ce qui est plus grave.
Il se lève.
En vous faisant cette confidence, je puis compter, n'est-ce pas, sur votre discrétion, et me fier à votre honneur de gentilhomme?
N'en doutez pas, mademoiselle, quoique ma position soit peut-être un peu délicate.
Pourquoi délicate? Peu commune, je ne dis pas. En effet, il est peu de fiancés à qui leur futur fasse avant le oui fatal leur confession pleine et entière.
Soit, je serai muet comme votre confesseur.
Voici donc ma confession. Mon cœur, monsieur Desverrières, a eu l'audace de ne pas attendre votre arrivée pour s'éveiller.
J'en éprouve un profond regret, mais je le reconnais, c'est tout naturel. Pour les cœurs féminins, l'aurore luit si vite. Je le comprends, Alma Viva s'est déjà présentée.
Vous l'avez dit.
Quelques petits cousins suivant l'usage.
Non, j'ai rompu avec la tradition. C'est un compagnon d'enfance. Notre amitié s'est insensiblement changée en amour, pour ainsi dire à notre insu, un amour profond, éternel, fatal. Lorsqu'il vit mon père partir pour Paris, vous savez dans quelle intention, il me dit « Elvire, j'ai le pressentiment qu'on veut nous séparer. » Et je lui répondis « Oh, mon chéri, si un fiancé, un tyran, se targuant de l'autorité paternelle, me traîne aux pieds des autels, il pourra prendre ma main, mais mon cœur sera toujours à toi. Acceptez-vous ce partage ?»«
Moi, pas le moins du monde !»
Elvire lui fait la révérence.
« Alors adieu, monsieur, et bon voyage !»
Elle fait un pas vers la gauche, Henri la retient.
« Pardon, mademoiselle, pourquoi tant de précipitation? Écoutez au moins un conseil fort sage. Les Roméo et les Alma Viva sont presque toujours des êtres insignifiants, que seule l'imagination féminine part de toutes les séductions du rêve. C'est peut-être à quelque bélitre semblable que vous auriez l'imprudence de lier pour toujours votre destinée. Croyez-moi, signifiez-lui promptement son congé.
Jamais. Je suis d'une constance invraisemblable. Voyons, monsieur Desverrières, n'insistez pas. Quel intérêt aurions-nous à engager la bataille l'un contre l'autre? Pourquoi vouloir m'épouser malgré moi? Pourquoi m'imposer le désagrément d'entrer en lutte avec la volonté paternelle? Ne vaut-il pas mieux renoncer spontanément à ma main? Acceptez-moi comme une sœur, ou mieux, comme un frère. Entre garçons, l'amitié est facile. Nous sommes jeunes, tous deux. Ayons l'un dans l'autre une entière confiance. Tenez, la France est grande. Ne pourrions-nous pas, au nord ou au midi, vous trouver une autre fiancée, sur laquelle feraient impression vos belles protestations d'amour coup de foudre?
Ah, tu crois pouvoir te moquer impunément de moi. Attends un peu. Est-ce votre dernier mot, mademoiselle? Votre détermination est-elle irrévocable?
Oui, monsieur, irrévocable.
C'est vainement que je tenterai de vous faire changer d'avis.
Inutile de l'entreprendre.
C'est parfait, et je respire enfin. Ah, sachez-le, c'est avec une vive reconnaissance que j'accepte l'offre de votre bonne et franche amitié.
Il l'invite à s'asseoir.
Ah ?
À mon tour de vous faire ma confession sincère.
Voyons.
J'avais un poids énorme sur le cœur, vous me l'avez enlevé.
Comment cela ?
Inutile de me chercher une femme au nord ou au midi de la France, elle est toute trouvée.
Ah ?
Ce mariage qui se serait accompli sans votre noble franchise n'aurait pas fait une seule victime, il en aurait fait deux.
Lesquelles ?
Vous et moi.
Vous, monsieur ?
Moi-même. Je ne voulais pas attrister les derniers jours de mon père, qui désirait fort me voir épouser la fille de son meilleur ami. Mais pour lui obéir, j'ai dû briser deux cœurs, le mien et celui d'une chère adorée. J'aimais, mademoiselle, et j'aime toujours, une charmante enfant qui pleure aujourd'hui dans une triste solitude la perte de ses espérances.
Vous aimiez ? Vous aimez encore ? Et vous faisiez un douloureux sacrifice en m'épousant ? Fort bien. Mais alors, cette déclaration enflammée d'un amour subi que vous m'avez faite il n'y a qu'un instant, que signifie-t-elle ?
Ah, mademoiselle, quand on doit avaler une pilule amère, le mieux est de ne pas faire la grimace.
Ah, la pilule amère, c'était moi. Merci, monsieur.
Pardonnez-moi cette comparaison quelque peu familière. Entre amis, entre frères et sœurs, ou plutôt entre garçons.
Si pourtant je m'étais laissé prendre à vos protestations d'amour. Voyez un peu ce que valent les hommes.
Soit, mais les femmes valent-elles mieux? Maintenant, du moins, il n'y a plus d'équivoque. Ah, que je me sens de joie au cœur!
C'est un être sans délicatesse.
Comme ma chère Marie bénira votre nom!
Je n'ai que faire des bénédictions des gens que je ne connais pas.
Vous pouvez la connaître, j'ai sa photographie sur moi.
Et quoi? Vous apportiez le portrait de votre maîtresse dans le sein de votre nouvelle famille?
Le voyant tirer la photographie de sa poche.
Et encore sur votre cœur?
C'est que moi aussi je lui ai dit en la quittant. Oh, ma chérie, si une fiancée tyrannique me traîne au pied des autels, à elle ma main, mais à toi mon cœur.
C'est juste.
Henri lui montrant la photographie.
N'est-ce pas une beauté, dites?
Pas mal. Le nez un peu long, mais...
Long? Il ne me semble pas.
Les yeux petits, mais peut-être agréables. Peut-être.
Agréable, dites splendide.
La bouche démesurément fendue. En somme, figure passable.
Oh, passable.
N'allez pas au moins vous imaginer que je sois jalouse d'elle.
Ce serait une absurdité. Ainsi c'est convenu. Nous formons une alliance offensive et défensive contre la tyrannie de nos parents.
C'est convenu.
Henri lui baisant la main.
Ma chère alliée.
Elvire retirant sa main.
Assez, monsieur, assez.
Poste, entre frères et sœurs.
Elvire lui montrant le portrait qu'elle tient toujours.
Si vous avez des baisers de trop, placez-les là.
C'est qu'elle vous a une menotte adorable.
Baisant à plusieurs reprises les doigts qui tiennent la photographie.
De tout cœur, mademoiselle.
Monsieur Henri de Verrières, c'est une petite trahison. Un crime de lèse-portrait.
Oh, un crime dont ma chère Marie m'amnistiera lorsque je lui dirai...
Lorsque vous lui direz ?
Que vous avez bien voulu me procurer du papier pour lui écrire que, grâce à vous, je puis l'épouser.
Elvire jette avec colère la photographie sur un meuble. Henri la reprend et la remet dans sa poche.
Dans cette chambre, vous trouverez tout ce qui est nécessaire. Tous mes compliments, monsieur de Verrières. Oh, les hommes, les hommes !
Elle sort à gauche.
Comme ma petite histoire a produit son effet. C'est qu'elle est vraiment charmante, ma farouche fiancée. Elle est adorable de figure, d'esprit et de grâce. Elle a voulu s'amuser à mes dépens, c'est clair. Je ne crois pas un mot de ce qu'elle m'a conté de ce soi-disant ami d'enfance. Je serais donc venu de Paris pour servir de cible aux railleries de cette provinciale adorable. Non, non, cela ne sera pas. Il faut que je me venge de cette belle moqueuse. Mais comment ?
Il réfléchit et le terre sur le seuil de la porte du fond.
Peut-on entrer, monsieur le baron ?
Voyant Henri.
Ah, pardon, monsieur.
Il veut se retirer.
Mais la voilà, ma vengeance. Entrez donc, monsieur Éleuthère.
Vous êtes bien honnête, monsieur le comte.
S'avançant.
Vous devez être bien content, hein, d'épouser une si parfaite demoiselle.
Oh, content.
Une excellente personne, un cœur d'or.
Je crois que monsieur Éleuthère connaît depuis longtemps le cœur d'or de ma future.
Tiens, cette malice, puisqu'elle est ma sœur de lait. Tout le monde l'aime ici.
Monsieur Éleuthère, sait-il bien ce que c'est qu'aimer ?
Certainement, on me l'a appris à l'école. Aimer est un verbe actif de la première conjugaison. Infinitif actif, aimer. Infinitif passif, être aimé.
Et l'indicatif présent ?
J'aime, tu aimes, il ou elle aime.
Doucement, dites avec moi posément, la main sur le cœur, j'aime.
Désignant la porte par laquelle Elvire est sortie.
Elle aime.
Pourquoi elle ?
Vous ne comprenez pas. Je vais m'expliquer plus clairement. Monsieur Éleuthère, vous êtes un profond scélérat.
Moi ?
Vous avez fait un pacte amoureux avec mademoiselle Elvire.
Moi ? Moi ?
Vous voudriez m'y faire apposer ma signature, comme endosseur. Je vous en sais un gré infini.
Oh, monsieur Desverrières, que dites-vous là ? Moi, j'aurais eu cette audace. Moi qui n'ai jamais levé les yeux sur une femme. Moi qui n'ai d'autre fortune que mes deux bras.
Comptez-vous donc pour rien votre physique avenant et les liens que forme une longue habitude ? Séducteur, va.
Mais qui peut vous faire croire ?
Elle-même, mademoiselle Elvire, vient de me déclarer qu'elle est folle de son compagnon d'enfance. Vous êtes bien ce compagnon.
Puisque je suis son frère de lait, je vous l'ai dit.
Elle a ajouté que, pour cette raison, elle refusait tout net de m'épouser.
Non, non, c'est impossible.
Impossible. Connaissez-vous le quatrième chant de l'Énéide ?
J'en ai entendu vaguement parler à l'école.
Eh bien, mon cher, votre situation est exactement celle qu'a chanté Virgile. Elvire, c'est Didon, et de cet Didon, Éleuthère est l'aîné.
Moi ? Je suis l'aîné et le cadet. Je suis fils unique.
Vous feignez de ne pas comprendre, mais il n'est pas besoin de ruser avec moi. Je vais partir, vous laisser le champ libre. Expliquez-vous ensemble, mariez-vous et soyez heureux.
Nous marier ensemble ?
Vous ne voudriez pas la voir mourir d'amour. Dites-lui donc que vous aussi vous l'aimez passionnément. Le reste ira tout seul.
Quelle aventure, Dieu du ciel ! Mais comment m'y prendre pour faire un pareil aveu ?
Il y a deux espèces de déclarations. La déclaration par insinuation, quand on veut sonder le terrain, et la déclaration ex abrupto, lorsqu'on est sûr de la victoire. Celle que vous avez à faire est de cette dernière catégorie, comme l'exorde célèbre de Cicéron. Quo usque tandem Catilina.
Et quoi ? Il me faudra parler latin ?
Non, c'est seulement un exemple que je vous cite pour vous encourager. Dès que vous vous trouverez seul avec elle, jetez-vous à ses pieds. Voyons, agenouillez-vous là.
Éleuthère tire son mouchoir, l'étend par terre et s'agenouille gauchement dessus.
Non, non, pas ainsi. Agenouillez-vous vivement, comme ceci.
Il lui montre comment il faut faire.
Et dites-lui avec feu, jusque à quand, ô Elvire, nos cœurs seront-ils séparés par le destin cruel ? Je sais que tu m'aimes. Ah, je t'aime aussi. J'ai refoulé dans mon sein la flamme qui me dévore, mais...
Éleuthère a tiré de sa poche une feuille de papier et un crayon.
Pas si vite, s'il vous plaît. Je ne puis pas suivre.
Il écrit.
Qui me dévore, mais...
Pour le reste, abandonnez-vous à votre inspiration.
Il le relève.
Silence, la voici.
Elvire rentre par la gauche.
Encore ici, monsieur ? Et votre lettre, est-elle écrite ?
Non, mademoiselle.
Il paraît que vous n'êtes pas bien pressée de faire la communication.
Au contraire, mademoiselle. Mais monsieur Durand a eu la bonté de me dire que d'ici au bureau télégraphique, il n'y a guère qu'une petite lieue, et je préfère envoyer un télégramme. Ce sera plus rapide.
Moi, je lui ai dit. Ah, par exemple.
C'est différent.
Se tournant d'un air gracieux vers Éleuthère.
Mon père désire faire visiter le parc à son hôte.
Elle désigne Henri d'un air dédaigneux.
Veux-tu être assez aimable pour nous accompagner ?
De tout mon cœur, mademoiselle. Quelle bonne grâce ! Si c'était vrai, pourtant...
Henri lui fait des signes à la dérober.
J'aime, tu aimes, elle aime.
Le temps de rédiger mon télégramme et de le remettre à l'un de vos gens, puis je suis à vos ordres pour la promenade dans le parc.
Oh, rien ne presse, monsieur.
Ils échangent un salut poli. Elvire se dirige lentement vers le piano. Henri encourage par signe Éleuthère à faire sa déclaration, et il entre à droite.
Voilà le moment critique.
Elvire, sur le point de s'asseoir au piano, s'arrête réfléchissant.
C'est singulier ce que j'éprouve. Est-ce de l'indignation? Est-ce un autre sentiment? J'ai les nerfs agacés. Pourquoi? Après tout, qu'est-ce que cela me fait qu'il aime ailleurs? N'ai-je pas fermement résolu de le congédier pour le punir de s'être fait accorder ma main sans avoir seulement daigné me consulter? Que m'importent ses amours de Paris? Que m'importe qu'il écrive ou qu'il envoie un télégramme?
Elle reste songeuse, la main appuyée sur le piano, sans paraître s'apercevoir de la présence d'Eleuther.
Ah, mes amis, c'est plus difficile que je ne croyais. Faut-il, ne faut-il pas? Je vais compter jusqu'à trois, puis en avant. 1, 2, 3.
Il fait un pas en avant et s'arrête.
Courage, Eleuther. Elle ne me regarde pas. C'est mauvais signe. Mieux vaut attendre qu'elle se retourne. Mon Dieu, que je suis donc perplexe. Ah,
tu m'as fait peur. J'avais oublié que tu étais là.
C'est que... Ah, que j'ai donc envie de m'en aller.
Tu as peut-être quelque chose à me dire?
Oh oui, mademoiselle, et quelque chose de bien intéressant. Saint Eleuther, mon patron, protège-moi.
Il tombe à genoux devant Elvire.
Que fais-tu?
Je... Mon papier.
Il tire le papier de sa poche.
Jusque à quand, à Elvire, nos cœurs seront-ils séparés par le destin cruel? Je sais que tu m'aimes, je t'aime aussi. J'ai refoulé dans mon sein la flamme qui me dévore. Combien font 9 fois 9? Ah, diable, c'est ma table de Pythagore.
9 fois 9 font, que signifie ce galimatia? Et que me chantes-tu, là? Est-ce un accès de folie?
C'est une déclaration ex abrupto.
Une déclaration?
Ex abrupto.
Ex abrupto ou non, qui t'a permis de me parler de la sorte?
Mais puisque c'est à cause de moi que vous avez rompu ce mariage.
Moi? Qui t'a dit cela?
Henri rentre.
Oh, pardon, je me retire.
Il traverse rapidement la scène. Arrivé près d'Elvire, il lui dit tout bas.
C'est votre Alma Viva? Tous mes compliments, mais je n'aperçois pas la guitare.
Monsieur de Verrières, taisez-vous, s'il vous plaît. Mais relève-toi donc. Ne vois-tu pas combien tu me rends ridicule?
Pourquoi rudoyer ce brave garçon qui sait si bien conjuguer le verbe aimer?
J'aime, tu aimes.
Il se relève et s'essuie les genoux.
Ah, c'en est trop, je comprends maintenant. C'est vous, monsieur, qui avez ourdi cette trame indigne, qui m'avez exposé à cette déclaration burlesque.
Oh, burlesque?
Ainsi, vous n'êtes venu ici que pour m'outrager, pour vous moquer de moi. Ah, tenez, c'est infâme!
Permettez, mademoiselle.
Oui, c'est infâme de venir jouer un pareil rôle dans la maison de mon père, le vieil ami du vôtre. Vous vous êtes dit, je vais bien m'amuser aux dépens de cette petite provinciale, à qui, par dérision, j'offrirai mon cœur et ma main. Quelle bonne histoire à conter au retour à mes amis du cercle, qui en feront des gorges chaudes. Mais vous vous trompez si vous croyez que je me laisserai outrager sans protester, sans me défendre. Sortez, monsieur, sortez sur le champ! Et ne remettez jamais plus les pieds à l'aéronnière.
Fulgence entre.
Il fait une journée splendide. Le baromètre est au beau fixe.
Pas ici, par exemple.
C'est le moment de faire notre promenade dans le parc. Êtes-vous prêt?
Il s'agit bien de promenade.
Elle se jette en sanglotant dans les bras de son père.
Ah, que je suis malheureuse!
Que veut dire cela? Tu pleures, mon enfant? Qui t'a fait de la peine? Serait-ce Eleuther?
Oh, monsieur le baron!
Montrant Henri.
C'est ce monsieur-là, mon père, venu tout exprès de Paris pour se jouer de nous et nous couvrir de ridicule. Vous pensiez qu'il aspirait à m'épouser? Ah bien oui, il a une amoureuse à Paris. C'est elle qu'il veut épouser, et non pas moi. Quant à nous, qui avions la simplicité de croire à sa parole, il ne songeait qu'à nous bafouer, en jouant une indigne comédie.
Eh quoi, Henri, vous avez osé?
Un orage est dans l'air, sauvons-nous.
Il gagne sans bruit la porte du fond.
M'en croyez-vous capable? Mademoiselle raconte les choses avec une prodigieuse inexactitude.
Soutiendrez-vous que vous ne m'avez pas jeté à la tête le nom de votre maîtresse et mis son portrait sous mes yeux?
Vous avez fait cela, Henri?
Soyez juste, mademoiselle. Est-ce moi vraiment qui ai tout d'abord refusé dédaigneusement votre main? Est-ce moi qui vous ai conseillé d'abandonner tout projet de mariage? Est-ce moi qui ai invoqué le souvenir d'un compagnon d'enfance, d'un ami de jeunesse? Est-ce moi ou vous?
Dit-il la vérité?
Oui, c'est moi. Mais vous deviez bien voir que je ne parlais pas sérieusement.
Ah, vous ne parliez pas sérieusement? Eh bien, moi non plus.
Cependant...
Mais vous m'avez signifié mon congé, et quoi qu'il m'en coûte, je m'incline devant votre arrêt.
Il prend son chapeau et s'approchant d'Elvire.
Je pars donc, mais au moment de quitter cette demeure où j'espérais trouver une famille, je vous prie de me pardonner une plaisanterie que je croyais innocente et qui, pourtant, a eu le tort de vous offenser. Je crois inutile d'ajouter, car vous l'avez deviné, qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce que j'ai dit d'une liaison antérieure. Il est un aveu que je ne devrais peut-être pas faire, mais qui monte de mon cœur à mes lèvres. Vous aviez fait sur moi une impression que je n'avais jamais éprouvée jusqu'à ce jour, et que je n'éprouverai jamais plus. Soyez fière, mademoiselle, à vous la victoire dans cette lutte de raillerie. Oh, cette victoire est bien complète. Je ne vous dis donc pas de m'oublier, c'est déjà fait sans doute. Mais moi, je n'oublierai jamais la douce vision qui a passé, si rapidement, hélas, devant mes yeux, en un jour de radieuse espérance. Adieu donc, mademoiselle, vivez heureuse.
Je me sens tout ému. Ce n'est pas là le langage d'un imposteur.
Henri, près de la porte.
Adieu.
Mon père, ne le laissez pas partir.
Pourquoi?
C'est que...
Achève.
Se cachant la tête dans le sein de Fulgence.
Je l'aime.
Il est donc vrai, mademoiselle?
Ce mot m'a échappé. Mais cet aveu, involontaire, ne doit pas vous retenir. Allez donc dire à votre parisienne que la petite provinciale a fait le sacrifice de son orgueil de femme et que...
Ne vous ai-je pas juré que cet amour était un conte?
Oui, il l'a dit, j'en suis témoin.
Un conte? Et le portrait aussi était un conte, n'est-ce pas? Je ne l'ai peut-être pas eu entre les mains?
Ce portrait!
Il le tire de sa poche et le présente à Fulgence.
Vous qui le connaissez, dites quelle en est l'original.
C'est sa sœur, Marie. La ressemblance est parfaite.
Elvire, poussant un cri de joie, lui arrache des mains la photographie qu'elle embrasse.
Sa sœur? Oh, qu'elle est donc jolie!
Pourtant, le nez est un peu long, la bouche un peu...
Méchant!
Elle se jette au cou de son père.
Ah, mon père, votre fille est bien heureuse.
Elle tend la main à Henri, qui la baise avec amour. En ce moment, Éleuther entr'ouvre doucement la porte du fond.
Bon, l'orage est passé.
Est-ce le moment de rapporter le bouquet?
Qu'en dis-tu, Elvire?
Oui, oui, donne ce joli bouquet.
Gare la migraine!
Oh, contre ce mal, certaines photographies sont une panacée.
Flairant le bouquet.
Qu'il est beau et quel délicieux parfum!
Puisque vous êtes en vaine d'indulgence, pardonnez à ce brave Éleuther la petite comédie qu'il a jouée à mon instigation. Car c'était une simple comédie, n'est-ce pas, Éleuther?
Disons comme lui. Oui, une toute petite farce, toute petite.
Grande comme cela.
Il montre son petit doigt.
Comment lui tiendrai-je rigueur pour m'avoir initié aux beautés de la table de Pythagore? Éleuther, combien font 9 × 9?
Ils font...
Il compte sur ses doigts.
Allons, mes enfants, nous ne sommes pas ici pour sonder les mystères de l'arithmétique.
Vous avez raison, cher père. Faisons la promenade annoncée. Votre parc doit être ravissant en pareille compagnie.
Voilà du moins un madrigal champêtre.
Puis nous irons nous mettre à table et, comme au bon vieux temps, choquer nos verres au bonheur des jeunes époux.
Vive les mariés!
Mais auparavant, il faudrait bien adresser à qui de droit le petit compliment d'usage.
C'est à vous que revient cette tâche, ma chère Elvire.
Alors, je me dévoue.
Elle s'avance au bord de la Seine.
Quand, pour notre bonheur, bon public, tout est prêt, qu'allons-nous devenir si vous êtes sévère? Chacun de nous a mis tous ses soins à vous plaire. Aurons-nous réussi? Quel sera votre arrêt? Vous pouvez, loin de nous, écarter les nuages et donner à ce jour de nombreux lendemains. Il suffit, pour cela, de rapprocher les mains. Les bravos font ici les heureux mariages.
Littérature Audio vous a présenté Le fiancé d'Elvire, d'Emmanuel Pinière-Chagas. Traduction pour la scène française, Henri Faure. D'honneurs de voix ayant participé au projet. Le baron Fulgence, Bernard. Henri, Vincent de l'Épine. Elvire, Evelyne. Éleuther, Lemoco. Montage collectif. Accompagnement musical, Corinne Coudray. Didascalie et coordination, Cocotte.